Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. À quoi sert l'ONU? La question, quelque peu lapidaire, est revenue dans le débat cette semaine alors que se tient à New York l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Une organisation sur la sellette. On a vu ces derniers mois son impuissance dans le dossier syrien. Ses cris d'alarme face à la catastrophe humanitaire au Yémen restent sans effet. L'attitude de ces casques bleus, souvent spectateurs passifs des violences, suscite l'incompréhension des populations. Alors, faut-il revoir le mandat des forces de maintien de la paix onusiennes, supprimer le droit de veto, privilège des grandes puissances, réformer le Conseil de sécurité? Le président congolais Joseph Kabila a-t-il raison ou tort d'exiger le retrait de la MONUSCO de son pays? Appelez-nous pour nous donner votre avis au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque matin, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. On revient d'abord sur cet attentat meurtrier commis samedi matin par un commando lors d'un défilé militaire dans la ville d'Avaz, en Iran. 24 personnes ont été tuées. Le président Hassan Rouhani a aussitôt accusé un petit état du Golfe d'être derrière l'opération, tout en accusant les Occidentaux de soutenir le terrorisme ou de faire preuve de complaisance. C'est le sujet que vous avez retenu, Serge. Bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de la ville de Tchang au Cameroun. En ligne avec nous de Belgique, Vincent Effling, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CECRI, le centre d'études des crises et des conflits internationaux de l'Université catholique de Louvain. Serge, quelle est la question que vous voulez poser à Vincent Effling?
En effet, comme vous l'avez mentionné Chantal, l'Iran a accusé un état du Golfe et j'aimerais savoir sur quels éléments s'appuient les régimes iraniens pour justifier leurs accusations.
Vincent Effling.
Oui, alors en fait, ils n'ont pas simplement accusé un seul État du Golfe. Hein. Ils en ont accusé deux en particulier, hein, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Et pour ce qui est de la complaisance, entre guillemets, occidentale, il y a quand même certains éléments objectifs qui viennent nourrir cette perception iranienne. Alors, il faut déjà comprendre que dans les accusations iraniennes, il y a une hiérarchisation. Hein, ceux qui sont placés en haut de la liste comme étant les premiers responsables, ce sont les États-Unis. Et ensuite viennent les États européens. Alors, pour les États-Unis, en fait, on leur reproche leur soutien financier et leur politique étrangère très favorable à l'Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite finance des groupes qui sont actifs contre le régime iranien dans cette région qui a été touchée par l'attentat, à savoir le Rouzestan. Et on sait aussi que John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, avait mis en place toute une feuille de route pour déstabiliser le régime, dans lequel justement il appelait les États-Unis à financer ces groupes. Donc ça, c'est un élément pour les accusations iraniennes à l'égard des États-Unis. Et pour ce qui est de l'Europe, eh bien, il y a toute une série de chaînes d'information qui ont leur siège en Europe, qui sont financées par l'Arabie Saoudite et qui mènent en fait vraiment des programmes de propagande qui sont hostiles à l'Iran. Or, l'Iran accuse ces programmes de faire l'apologie du terrorisme, notamment dans leur couverture de l'attentat. Et aussi, vous avez des groupes donc qui sont hostiles à l'Iran et qui sont actifs au Rouzestan, et dont la branche politique, ou plutôt les branches politiques, ont leur siège en Europe, notamment aux Pays-Bas et au Danemark. Et d'ailleurs, le ministre danois des Affaires étrangères a déjà dit que s'il y avait des éléments présents au Danemark, il y avait un lien avec les auteurs de ces attentats, le Danemark apporterait une réponse claire là-dessus et que ces personnes ne resteraient pas impunies. Donc effectivement, il y a quand même certains éléments qui permettent de comprendre la réaction du régime iranien.
Mais ce qui a un peu surpris, ce sont les deux revendications, donc la revendication interne et la revendication du groupe État islamique.
Oui, tout à fait, ça a fortement surpris. Et d'ailleurs, quand on analyse la chose en profondeur, il me faudrait une heure pour développer tout ça. Mais,
Non, je ne donne pas une heure.
Je sais bien. Il y a des éléments à charge, il y a des charges pour les deux versions. Et franchement, à l'heure actuelle, c'est très difficile, même impossible de dire avec certitude, c'est l'un et pas l'autre. Il y a des éléments qui vont dans les deux sens.
Serge, vous avez une autre question pour Vincent Effling.
Exactement. Le leader iranien Hassan Rouhani a promis une réponse plus ferme et rapide. Quelles mesures entend-il prendre ?
Des mesures intérieures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une campagne, un coup de filet, comme on dit souvent en Europe dans les milieux séparatistes de la région du Rouzestan. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées. Le ministère du renseignement iranien a annoncé que ces personnes avaient des liens avec les auteurs de l'attentat, qu'on avait retrouvé les fabriques, enfin leur QG, là où ils avaient commandité, préparé plutôt cette attaque. Et alors, il y a aussi une autre possibilité de réponse, outre donc la répression intérieure qui risque de s'intensifier sur les personnes soupçonnées de complaisance à l'égard de ces groupes séparatistes. C'est une réponse plutôt dirigée contre les bases arrières que possèdent certains de ces groupes, notamment en Irak. Donc on pourrait tout à fait envisager, hein, ça reste pour l'heure une supposition, que si maintenant il y a des camps d'entraînement ou des bases logistiques qui sont repérées et identifiées en Irak, eh bien les Iraniens pourraient mener des actions punitives et des frappes précise contre ces endroits. Ça a déjà été le cas dans le cadre de groupes au Kurdistan iranien qui ont leur base arrière dans le Kurdistan irakien, et l'Iran a déjà frappé ses bases dans le Kurdistan irakien.
Merci beaucoup Vincent Effling d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Serge, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée. Jack Ma, le patron d'Alibaba, renonce à créer 1 million d'emplois aux États-Unis comme il l'avait promis. Alibaba, c'est le géant chinois du commerce sur Internet. Lassana, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à votre équipe de rédaction.
Vous nous appelez de Bamako. À mes côtés en studio, Patricia Lecomte du service économie de RFI. Bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour Lassana.
Lassana, Patricia est prête à vous répondre. On vous écoute.
Oui Chantal, ma première question, je voulais savoir, est-ce que le gouvernement chinois qui est en pleine guerre avec les États-Unis sont derrière cette décision? Sinon, comment l'expliquer?
Patricia.
Eh bien, écoutez, déjà, Lassana, comme tous les chefs d'entreprise chinois, hein, Jack Ma, le patron d'Alibaba, est remonté contre Donald Trump. Souvenez-vous, quelques semaines après l'élection du nouveau président américain, le milliardaire chinois était reçu en grande pompe à la Trump Tower, et devant les caméras du monde entier, les deux hommes étaient apparus tout sourire, et Donald Trump avait déclaré « Jack Ma est un grand entrepreneur, l'un des meilleurs au monde. Jack et moi allons faire des superbes choses. » Il faut dire que le patron du géant chinois du commerce en ligne avait proposé de faire rentrer sur sa plateforme 1 million de petites entreprises américaines afin qu'elles puissent vendre leurs produits aux consommateurs chinois d'ici les 5 années à venir. Jack Ma s'était alors effectivement engagé à créer 1 million d'emplois sur le sol américain. Le patron d'Alibaba avait précisé aux locataires de la Maison Blanche que cet engagement serait fondé sur une coopération Chine-États-Unis et ne serait possible qu'à 2 conditions, celle d'une coopération amicale entre les deux pays et celle d'un commerce bilatéral rationnel et objectif. Une aubaine évidemment pour le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui prouvait ainsi aux Américains que les Chinois acceptaient le « made in America ». Une opération de séduction pour le milliardaire chinois qui espérait en retour que les États-Unis sortent de leur liste noire. Le site chinois Taobao accusé d'écouler des produits contrefaits.
Mais le 20 septembre, donc, le dirigeant chinois est revenu sur sa promesse de créer 1 million d'emplois aux États-Unis.
Eh oui, Jack Ma a en effet annoncé, je le cite, que la situation actuelle a déjà annulé le postulat de départ. Il n'y a pas moyen de réaliser la promesse. Une décision bien évidemment prise en réaction à la guerre commerciale sino-américaine engagée par Donald Trump. Souvenez-vous, à plusieurs reprises, Washington a imposé ces derniers mois des droits de douane sur des marchandises chinoises, correspondant dans un premier temps à 50 milliards de dollars d'importation annuelle. Pékin a immédiatement riposté à l'identique. Depuis, l'escalade se poursuit. Il y a une semaine, Donald Trump en remettait une couche avec 200 milliards de dollars supplémentaires de taxes douanières. En retour, la Chine en a fait de même sur 60 milliards de dollars d'importation américaine. Bref, Chantal, vous voyez bien, on est loin de la fameuse coopération amicale entre les deux pays et de la croissance harmonieuse des échanges commerciaux.
Patricia, est-ce que faire monter Jack Ma au créneau, c'est une stratégie du gouvernement chinois?
Chantal, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais une chose est certaine, c'est que l'économie chinoise est bel et bien visée par le président américain. Et l'on peut imaginer qu'au travers de ses déclarations, Jack Ma se fait le porte-voix de Pékin. Nous sommes dans une guerre commerciale et tous les arguments sont bons. En annonçant renoncer à créer 1 million d'emplois aux États-Unis, le Chinois renvoie la responsabilité de l'échec sur le président américain et s'attaque directement à sa popularité. Jack Ma avait déjà prévenu que la politique protectionniste américaine aurait une répercussion sur l'emploi, affirmant que les droits de douane détruiraient l'espoir de millions d'entrepreneurs et de fermiers américains de pouvoir s'enrichir en vendant leurs produits en Chine.
Lassana, est-ce que vous avez une autre question pour Patricia?
Oui, Chantal. La seconde question, je voulais savoir, est-ce que celui vraiment va-t-il contraindre M. Trump de revoir, sinon de rabaisser la taxe douanière avec la Chine?
Alors Patricia, est-ce que le gouvernement Trump pourrait faire marche arrière?
Difficile de répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mois passés nous ont prouvé combien Donald Trump est imprévisible. C'est un bras de fer, hein, c'est une négociation à marche forcée. Il faut toujours demander plus pour obtenir ce que l'on veut. Donald Trump peut, s'il le souhaite, revenir en arrière ou bien redistribuer les cartes. Pour le moment, compliqué d'y répondre, mais en tout cas, on peut se dire que l'avenir peut-être nous le dira.
Merci beaucoup Patricia pour ces explications. Lassana, bonne journée à Bamako. On va parler maintenant de la dernière odyssée de l'Aquarius, le navire humanitaire avec 58 migrants à bord s'est vu interdire les ports italiens. Il a alors demandé à la France d'accoster à Marseille. Le gouvernement a refusé au nom du droit maritime. L'Aquarius a finalement obtenu le droit de débarquer ces migrants à Malte après un accord sur leur répartition entre quatre pays. Une fois à terre. En ligne avec nous, Francis Valla, président de l'association SOS Méditerranée. Bonjour.
Bonjour.
Et Samuel qui nous appelle de Coupella. Bonjour.
Bonjour, Chantal Leroux. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors Samuel, vous avez une question pour Francis Valla. Vous avez la parole.
Merci. Ma question est la suivante. Quelles sont les raisons qui ont poussé le Panama à retirer son pavillon? Peut-on penser à une pression italienne?
Francis Valla, est-ce que
eh bien,
c'est...
Écoutez, vous avez fait à la fois la question et la réponse, puisque je vais vous confirmer, monsieur, ce que vous venez de dire. J'essaie d'être bref. Pour être clair, Gibraltar, nous avions l'impression qu'il y avait eu des pressions politiques, puisqu'il n'y avait aucun raisonnement, aucune raison qui était acceptable sur le plan du droit maritime.
Oui, parce qu'avant, il faut dire que l'Aquarius donc, circulait avec un pavillon de Gibraltar.
Oui, vous avez raison de le dire. C'est deux fois en un mois. Et je signale aussi à vos auditeurs que c'est la première fois, à ma connaissance depuis la guerre mondiale, qu'un pavillon est comme ça retiré à un navire qui répond à toutes les obligations juridiques, techniques, à toutes les règles, etc. Donc on se doutait qu'il y avait une raison politique. Mais on n'avait pas le choix. Puisque malgré tout les États sont souverains, donc on aurait pu faire un procès, mais ça aurait duré 2 ans, et nous ce qui importe c'est qu'on continue notre activité. Donc nous avons trouvé le pavillon de Panama. Et là, après quelques raisons qui étaient fallacieuses, le gouvernement du Panama a fini par dire, et même par écrire, qu'il avait, été soumis à des pressions italiennes que je qualifierais de politico-économiques. Et comme le par exemple le fait que les navires battant pavillon Panama, et c'est la première flotte mondiale, auraient des difficultés s'ils voulaient toucher les ports italiens. Alors quel que soit le droit, vous pensez bien qu'entre le petit Aquarius et 25% de la flotte mondiale, l'autorité du Panama n'a pas hésité longtemps, d'autant qu'elle sait bien qu'on ne va pas s'engager dans un procès qui durerait des années, coûterait beaucoup d'argent, et que nous ne sommes d'ailleurs, auquel d'ailleurs nous ne serions pas capables de faire face. Donc c'est bien, oui, des pressions politiques.
Samuel, vous avez une autre question à poser à Francis Valla.
Oui. Ma deuxième question est la suivante. Quel sera alors l'avenir du navire?
Oui, bien entendu, c'est une question naturelle et vous pensez que nous sommes déterminés donc à trouver des solutions, premier point. Alors l'avenir immédiat, si vous voulez, le navire, une fois que le débarquement des naufragés aura été fait à Malte, ce qui va prendre encore peut-être, allez, disons, 2 jours en moyenne, peut-être un peu plus, un peu moins, du fait des circonstances météorologiques, il ira directement sur Marseille. Et il ira précisément directement sur Marseille parce que c'est là que nous avons notre base, notre siège social. C'est un port qui est amical. Donc on va pouvoir prendre le temps de prendre le problème à bras-le-corps, si je puis dire. Et là, nous avons déjà, par une conférence de presse lundi dernier, lancé un appel, d'une part au Panama pour qu'il revienne sur sa décision, mais pour les raisons que je vous ai dites, on n'y croit pas beaucoup. Néanmoins, demander aux États européens de faire pression sur Panama au nom du maintien de toute l'architecture du droit international maritime, parce que c'est un précédent absolument énorme. D'autre part, nous nous adressons aux États européens pour qu'ils nous aident à trouver un pavillon, pourquoi pas européen, et sinon dans la communauté maritime mondiale, étant entendu que dans le pire des cas, nous espérons bien trouver un pavillon qui n'aura pas trop de... ou qui sera insensible aux pressions économiques et commerciales de l'Italie. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens disent que nous sommes morts debout. Moi, je vous dis que nous avons bon espoir de trouver une solution, parce que nous sommes animés par la volonté d'exercer notre mission qui est seulement de sauver des gens. Nous ne faisons que ça, nous ne mêlons absolument pas de politique, nous sommes pour beaucoup des gens de mer et nous voulons à tout prix repartir.
Merci beaucoup Francis Valla d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'association SOS Méditerranée. Samuel, bonne journée à Coupéla au Burkina Faso. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec, si j'ose dire, une autre odyssée, celle qui a conduit Manuel Valls sur les rives catalanes. L'ancien premier ministre socialiste français a annoncé mardi sa candidature à la mairie de Barcelone. Une candidature qui vous intrigue, Fulgence. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Kinshasa et pour répondre à vos questions, Jeanne Richard du service politique de RFI m'a rejointe en studio. Bonjour.
Bonjour.
Fulgence, on vous écoute.
Oui, ma première question, comment expliquer que son choix se porte sur Barcelone alors qu'il n'a aucune carrière politique dans cette ville ?
Jeanne Richard.
Mais d'abord, c'est parce que Manuel Valls y est né, à Barcelone. Il a été naturalisé français à l'âge de 20 ans. Il garde donc des attaches en Espagne, mais surtout, s'il quitte la France, c'est parce que son horizon politique est bouché. Il a payé cher son bilan sous le quinquennat Hollande, il y a 2 ans, avec une impopularité record. Il échoue d'ailleurs à la primaire socialiste pour la présidentielle. Puis, il tente de rejoindre Emmanuel Macron, qui fait face alors au mépris et à la condescendance des proches du nouveau président qui refuse qu'il se présente sous l'étiquette En Marche. Il arrive tout juste à être élu député et à l'Assemblée, on lui accorde simplement la possibilité de rejoindre le groupe de la majorité présidentielle, mais en tant qu'apparenté seulement. Ses lieutenants l'ont abandonné un à un, il est de plus en plus isolé, affaibli. Bref, 2 années de dégringolade. Et après avoir été maire, député, ministre, premier ministre, après avoir cru qu'il serait même le prochain président socialiste, c'est la déchéance. Donc si Manuel Valls tente sa chance à Barcelone, c'est parce qu'il croit que son avenir politique y sera plus clément. Il veut tourner la page française et repartir de zéro en quelque sorte.
Fulgence, une autre question pour Jeanne.
Oui, effectivement. Comment prépare-t-il sa campagne et a-t-il une chance de remporter dans cette ville en 2019?
Alors, il part déjà avec le soutien du parti Ciudadanos. C'est un parti libéral de centre-droit. Mais aujourd'hui, il prend un peu ses distances. Il veut se poser en candidat indépendant. Sa ligne, c'est de défendre l'union de la Catalogne avec l'Espagne. Il veut rassembler dans une plateforme citoyenne tous ceux qui y sont favorables, avec le soutien de plusieurs partis, de la société civile, épuisée dans l'électorat de gauche. Un candidat nouveau, sans étiquette, qui veut jouer sur le clivage avec les radicaux indépendantistes pour rassembler, c'est une stratégie qui rappelle bien celle d'un certain Emmanuel Macron en France pour la présidentielle et qui avait été gagnante.
Pour autant, difficile pour l'instant de mesurer les chances réelles de Manuel Valls.
Oui, l'élection c'est dans 8 mois et il fait face à des candidats bien ancrés qui dénoncent tous son parachutage, sa méconnaissance de la ville et de ses habitants. Il le présente comme un candidat des riches aussi, car depuis que Manuel Valls est à Barcelone, il s'affiche beaucoup avec l'élite économique et sa nouvelle compagne est une riche héritière catalane. Donc Manuel Valls a une carte à jouer, c'est sûr, mais il devra aussi composer avec ses adversaires, étoffer son réseau et tout faire pour que l'échiquier politique reste fragmenté pour ne pas faire face à une coalition qui pourrait rafler la majorité lors du scrutin.
Et s'il échoue à conquérir la mairie de Barcelone, est-ce que Manuel Valls a encore un avenir politique en France ? Il a annoncé un mardi qu'il allait démissionner de son mandat de député de l'Essonne.
Alors on dit qu'en politique, rien n'est jamais joué, mais cette nouvelle aventure espagnole ressemble bien à un aller sans retour. Il passe déjà tout son temps à Barcelone pour préparer sa campagne. Il a d'ailleurs délaissé l'Assemblée nationale française. Depuis le mois de mai, il n'a siégé que 4 fois. À Évry aussi, où il est resté maire de plus de 11 ans et où il est encore député pour quelques jours, c'est pareil, on ne le voit plus. Ses opposants en France dénoncent d'ailleurs son absence alors qu'il touche encore ses indemnités de député. Et à Évry, où j'étais hier, beaucoup d'habitants ne comprennent pas. Certains sont vraiment en colère et le juge opportuniste, lâche, il se sent abandonné. Bref, si un jour Manuel Valls veut revenir en France, ce sera vraiment mission impossible. De toute manière, il l'a bien dit mardi à Barcelone, quoi qu'il arrive, je resterai ici.
Merci beaucoup Jeanne Richard du service politique de RFI. Et puis merci à vous Fulgence, vous qui nous écoutez à Kinshasa, d'avoir participé à cette première partie d'appel sur l'actualité. On se retrouve dans 10 minutes.